chose. Ok, donc c'est parti pour la dernière heure de cette présentation, de ce hands-on. Donc concrètement, le but, c'est de faire cette fois de l'ASP.NET, en l'occurrence de l'ASP.NET MVC. On va utiliser bien sûr Azure, mais plus précisément Azure Web Sites pour héberger ce site ASP.NET. On va également utiliser Azure SQL Database, donc qui est la version managée de SQL Server dans Azure. SQL Server qui est géré par Microsoft, sur lequel vous avez simplement l'utilisation à vous soucier, mais pas toute la partie plomberie, si je puis dire. Et on va également utiliser Entity Framework, pour faire le lien entre le code ASP.NET et le code SQL Server, donc un object mapping relationnel pour ceux qui ne le connaissent pas. On va utiliser cette dernière version qui permet de faire des choses en asynchrone. On va détailler tout ça. Donc, première chose que je vous propose de faire, c'est de commencer par créer un nouveau projet ASP.NET dans Visual Studio. Donc, je vais utiliser dans mon cas Visual Studio 2013 Update 3 Release Candidate, je crois, donc la toute dernière version. Je vais créer un nouveau projet. Et en C-Sharp, que je préfère C-Sharp personnellement, je vais pouvoir créer un projet web. Et là, la première chose que vous constatez, si vous n'avez pas fait d'ASP.NET sur les dernières années, c'est que vous n'avez plus qu'un seul choix à ce niveau-là, au niveau de la création de votre projet. Vous avez le choix de créer un projet ASP.NET Web Application. Si vous étendez la petite flèche ici au niveau de la catégorie web, vous avez les anciens templates qui sont disponibles et je vous conseille très fortement d'utiliser cette nouvelle option qui va vous permettre en fait de choisir quel template vous souhaitez utiliser, quel framework vous souhaitez installer et un certain nombre d'autres options par rapport à ASP.NET. Donc je vais tout de suite le faire. Je vais appeler mon projet Enzone Benjat. Ici j'ai une première option que je ne vais pas cocher, mais pour information, ça vous permet d'installer Application Insights dans votre application. Donc Application Insights, c'est un composant de Visual Studio Online qui vous permet de récupérer un certain nombre de métriques techniques et fonctionnelles de votre application. Vous pourrez savoir concrètement si tout va bien côté consommation mémoire, le nombre d'utilisateurs que vous avez, les navigateurs qu'ils utilisent, récupérer toutes ces métriques de manière consolidée, ce qui vous permettra d'en savoir plus sur l'utilisation de votre application. Donc je ne le fais pas, je passe directement à l'étape d'après. Et c'est dans cette étape que vous allez pouvoir choisir un certain nombre de choses, dont le template que vous voulez utiliser. Donc ce template de projet, c'est vraiment ce qui va différencier d'être dans un template ASP.NET totalement vide, avec rien de chargé, ou un template sur lequel vous avez quelques pages de déjà créées pour vous donner une sorte de squelette préexistant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a dissocié, donc avec Visual Studio 2013, on a dissocié les templates, donc la première partie en haut à gauche, des frameworks, des références en fait au framework ASP.NET qui sont disponibles. Par exemple, je peux très bien choisir un template ASP.NET MVC et ajouter les références à ASP.NET Web API. Ou alors, je peux très bien partir d'un projet totalement vierge sans ajouter pour l'instant aucune référence et le faire manuellement par la suite. Donc, ces deux notions qui étaient auparavant, qui n'en étaient qu'une, sont maintenant totalement dissociées. Donc dans mon cas, je vais choisir MVC. Je vais choisir MVC. Excusez-moi, je vérifie les questions en même temps. S'il y en a, n'hésitez pas. Et je ne vais pas ajouter de framework en particulier, en plus de MVC. Je peux ajouter les tests. Comment?
Tu les as sur l'écran si tu veux.
Ah, c'est fort. Merci. Je vais pouvoir, si je veux, ajouter les tests unitaires. Je ne le fais pas dans mon cas. Une autre option en haut à droite de ce nouveau wizard, c'est la possibilité de changer le mode d'authentification qui va être utilisé dans le template. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a sorti également du template pour pouvoir vous donner cette possibilité-là. On peut tout à fait choisir le template MVC et ne pas avoir de mécanisme d'authentification configuré. D'avoir une authentification par user accounts individuels. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit l'authentification sur des comptes que vous gérez vous-même, par exemple dans les profils, dans les serveurs, ou alors en utilisant un fournisseur d'identité externe comme Facebook, Twitter, un compte Microsoft, etc. Donc ça utilise la nouvelle brique .NET qui s'appelle Identity, ASP.NET Identity, qui remplace ce qu'on connaissait avant par ASP.NET Membership Provider et Role Provider. Donc tout ça a été refondu dernièrement pour être beaucoup plus en phase avec les standards utilisés aujourd'hui, notamment tout ce qui est OAuth, O2 et compagnie. La partie organizational account, c'est la possibilité de se connecter directement, enfin de configurer votre template pour se connecter directement à un ADFS. Donc un ADFS, c'est la partie fédération d'Active Directory, ou alors directement à Azure Active Directory, qui est donc l'annuaire qui est utilisé notamment par Office 365. Donc si vous développez une application pour une entreprise qui est sur Office 365, par exemple, en utilisant cette option, vous allez utiliser directement le même annuaire et mettre en place très facilement un SSO entre votre application et les autres services utilisés par cet annuaire comme Office 365. Et enfin, Windows Authentication, bah c'est le mode traditionnel qui va utiliser l'authentification Windows, NTLM et compagnie. Je vais prendre allez, Individual User Account. Dans les No Authentication, je vais vraiment créer un site public, disons. Et enfin, la dernière option de ce petit assistant, c'est de pouvoir déployer directement, enfin, de pouvoir me donner la possibilité de déployer mon site sur Azure. Donc, soit sur Azure Website, soit sur Azure Virtual Machine, qui sont les deux grosses options aujourd'hui les plus utilisées pour déployer des applications web. Donc moi je vais choisir Website, ce qui va me faire, et ça va être la prochaine étape, donc je clique sur OK. Ce qui va me faire, c'est me connecter sur mon compte Azure qui est sur le même Microsoft Account que Visual Studio. Hein, vous savez maintenant, dans Visual Studio, on va se connecter pour pouvoir récupérer, par exemple, partager ses profils entre plusieurs PC, mais aussi pour pouvoir aller récupérer les différents abonnements Azure que l'on a. Donc là, il a trouvé que j'avais un certain nombre d'abonnements Azure associés à mon compte benjamin@stanmark.com. Je vais choisir les bénéfices de mon abonnement MSDN et je vais pouvoir sélectionner la région sur laquelle mon site va être provisionné. Moi, j'ai pas de chance, j'ai pas encore les nouvelles régions comme Benjamin, mais ça va arriver dans les prochaines semaines. Allez, Ouest Europe par exemple. Et je vais créer une base de données en même temps, donc une base de données SQL Database, comme je vous ai indiqué tout à l'heure. Je vais créer un nouveau serveur, je lui donne un login, un mot de passe. Il faut essayer de retenir. C'est mieux. Et là, le projet va être créé. Donc la première étape, c'est vraiment de créer à la volée le projet en fonction des options que vous avez choisies dans le petit assistant, en fonction du template, les méthodes d'authentification, etc. Et ensuite, là, vous le voyez dans la fenêtre Web Publish, il est en train de me créer mon Azure Website directement dans ma souscription. L'assistant là que j'ai utilisé m'a demandé de créer un nouveau serveur et va créer une nouvelle base de données sur le serveur. Si ça répond à votre question, Nicolas. Il serait tout à fait. Là, c'est vraiment qu'un assistant pour me faciliter la vie. Après, si jamais je voulais créer une nouvelle base de données sur un serveur existant, je ne me rappelle plus si l'assistant le propose, mais si jamais il ne le propose pas, c'est tout à fait possible de le faire côté Azure, ensuite de linker mon application directement. Concrètement, ce que fait cet assistant, c'est de configurer, quand vous allez faire clic droit Publish, c'est de configurer les éléments de publication pour publier directement dans Azure. Et c'est de créer des scripts que vous voyez ici dans le dossier Publish Scripts. C'est de créer des scripts PowerShell correspondant à une publication. Donc ça, c'est une nouveauté de l'update 2, sauf erreur de ma part. Et ça vous permet de, concrètement, dans la vraie vie, vous allez éviter de publier votre site en production en passant par Visual Studio. Généralement, c'est des étapes qui sont des étapes de votre projet qui sont séparées. Et donc, vous allez plutôt prendre ces scripts qui vous ont été générés, les customiser avec d'autres choses éventuellement, et les faire tourner de manière séparée et sans Visual Studio. Voilà. Sadib qui veut prendre le contrôle depuis tout à l'heure. Je suis désolé, Sadib, mais je vais le garder pour l'instant. J'ai encore 3 quarts d'heure. Après, on verra si on te donne. Je vais maintenant que j'ai créé mon site, il faut que j'avance un petit peu. La première chose que je vais faire, c'est de mettre à jour le template en allant chercher la dernière version d'Entity Framework. Donc, Entity Framework est disponible maintenant via NuGet depuis quelques versions déjà. Donc, je vais aller voir s'il y a des mises à jour. Il n'y en a pas. Ah oui, la dernière version a déjà été installée.
T'as l'air
Ah
déçu.
non, je pense que je ne l'ai pas en fait. Je vais vérifier. Je crois que vu que j'ai changé par rapport à ma réflexion, non, ça a l'air bon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que j'ai choisi dans mon template de ne pas prendre de méthode d'authentification, j'avais pas de code dans le template qui avait besoin d'Entity Framework. Donc, il ne me l'a même pas installé. Donc, heureusement que j'ai cherché à le mettre à jour, parce qu'en fait, je vais aller l'installer directement, si je veux bien. Voilà. Je vais accepter. OK. Je vais aller sur le portail Azure correspondant à l'abonnement que j'ai utilisé et je vais essayer de constater que ça a fonctionné. Alors, voilà, évidemment, c'est l'autre abonnement. Je vais voir s'il m'a bien créé mon site web et ma base de données. Et j'en profite pour vous indiquer qu'au niveau Azure SQL Database, il y a des nouveautés en ce moment. On est en train de sortir des nouveaux tiers, des nouvelles éditions d'Azure SQL Database. Et on décommissionnera de manière progressive les éditions web et business. Et pour l'instant, l'assistante Visual Studio que j'ai utilisé pour créer mon serveur et ma base ne connaît que les anciens tiers. Donc il m'a créé voilà, cette base de données ici, EnzonePingeatDB, en édition web. Je vais tout de suite lui demander de passer sur les nouvelles éditions, donc sur la partie basique par exemple, je n'ai pas besoin de plus ici. Je vais sauvegarder. Et il a besoin de quelques minutes pour me convertir ça en basique. Normalement, on le voit. Si je reviens ici. Ben d'accord, il avait besoin de quelques secondes finalement.
C'est une petite minute.
C'est des petites minutes, voilà. Et minute Windows, on a le droit de se moquer comme ça. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est vous montrer que ça fonctionne. Je vais publier. Je peux lancer une preview. En fait, ce qu'il va utiliser comme protocole ici pour publier, c'est WebDeploy. Il y a plein d'autres protocoles qui sont possibles. Hein. Je pourrais déployer via FTP, je pourrais déployer via Git, je pourrais déployer. Il y a quoi d'autre?
Roblox.
Il y a Dropbox, effectivement. On peut déployer via Dropbox et faire des processus un peu sympas. WebDeploy, c'est ce que je suis en train d'utiliser, Stéphane. Merci, merci de suivre. Et merci pour la participation. Et.
Par drag and drop dans la console SCM.
Et on peut faire ça, on peut faire des drag and drop pour déployer également. Donc là, j'ai utilisé WebDeploy, ça allait assez vite, il allait remplacer que ce qui avait changé. En l'occurrence, il a tout remplacé puisque c'est un nouveau projet. Mais la prochaine fois que je vais publier, il remplacera que ce qui a changé. Ok, maintenant, ce que je vais faire, c'est aller créer quelque chose dans ma base de données parce que pour l'instant, elle est vide. Donc ce que je vous propose, c'est d'ouvrir le lien où on a les différents documents. Alors je vais le reprendre aussi ici, ne vous inquiétez pas. C'est celui-là, Benjamin, W à la fin.
Ouais, le lien OneDrive.
Ouais, c'est sûr. Je peux le remettre, hein. Alors, en plus, je l'avais déjà ouvert, très bien. Ouais.
C'est un
Et je veux bien que tu le remettes
SVH.
pour tout le monde, ouais, s'il te plaît.
Ça
Et
marche.
si vous allez dans le dossier ASP.NET et SQL Database, vous pouvez ouvrir le orchestre création.sql. Donc, quand j'ai créé cette démo, c'était le 21 juin, juste avant
De la
l'événement
musique.
du 30 juin, je crois, et c'était la fête de la musique. Donc, ça m'a donné cette idée
Du
pour.
24 juin.
Et là, voilà, le 21 juin, le week-end avant le 24 juin, c'est généralement le week-end que je prépare ce genre de présentation. Ne le dites pas à mon chef. Ce qu'il me demande ici, alors j'ai cliqué sur Manage en bas, en bas de ma base de données. Ce qu'il me demande, c'est pourquoi je veux faire ça, étant donné que les règles firewall de la base de données ne me le permettent pas. En fait, ma base de données, elle est toute neuve, et j'ai encore rien touché. Et par défaut, le firewall est complètement fermé en dehors des IP d'Azure. C'est-à-dire que si on veut se connecter d'une application qui est sur Azure, pas de problème. Mais si là, je veux me connecter, en l'occurrence, du réseau Microsoft, parce que je suis sur le réseau Microsoft en ce moment, il y a un problème. Comme je suis connecté en tant qu'administrateur du portail, il me demande si je veux changer ces règles pour autoriser l'IP actuellement utilisée. Il me dit que ça fonctionne et là il me dit d'utiliser Internet Explorer ou d'activer Silverlight. Je vais passer sur Internet Explorer parce qu'effectivement le portail est toujours en Silverlight pour l'instant.
Enfin, l'outil de gestion de SQL Database.
Voilà, la partie portail pour gérer l'intérieur de votre base de données, si on peut le dire comme ça. Donc là vous mettez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez utilisé lors de la création dans Visual Studio. Et vous avez un petit bouton Nouvelle requête ici. Vous allez récupérer ce que vous avez dans le OneDrive. Ce que je vous ai mis dans le OneDrive. Vous copiez-collez, normalement vous exécutez. Et en théorie, ça doit marcher. Ça, c'est bon, ça marche.
Ouvert.
C'est ouvert. On peut continuer. Ensuite, ce que je vais faire, je vais créer une couche d'accès aux données. Donc, qui va être basé sur Entity Framework. Comme on a un petit peu de temps, je vais faire les choses bien. Je vais créer un nouveau projet pour ça. Et je vais créer un projet de type Class Library, que je vais appeler DAL pour Data Access Layer. T'as vu, je fais les choses bien.
C'est bien. Je parlerai à ton chef.
C'est gentil. Je supprime le classe 1.cs qui est créé par défaut. Je vais, via clic droit, relancer le petit assistant Manage NuGet Packages pour aller chercher Entity Framework, parce que tout à l'heure je l'ai installé, mais dans mon projet principal, pas dans ma couche d'accès aux données. Donc je pourrais faire encore mieux et créer un troisième projet dans lequel j'aurai que mes objets en mode POCO. Donc des plain old CLR object, donc
C-Sharp.
ou C# object, ouais, effectivement, qui me permettrait d'avoir vraiment une troisième couche où j'ai des objets qui n'ont aucune relation avec Entity Framework, une couche d'accès aux données, pardon, qui est elle basée sur Entity Framework, et ensuite potentiellement mon application, ou alors une couche par-dessus pour que mon application n'ait pas de notion d'Entity Framework. Bref, on peut faire plein de choses. Je vais m'arrêter à deux couches, une couche d'accès aux données et mon application.
Donc, t'as la dalle.
J'ai plus faim là, j'ai bien mangé à midi, merci. Ok, maintenant que j'ai Entity Framework, je vais pouvoir ajouter un nouvel élément. Je vais choisir un élément dans la partie data et je vais choisir ADO.NET. Entity Data Model que je vais appeler modèle tout simplement et je vais choisir. Alors, je pourrais faire du code first par exemple, c'est ce qu'on aime bien faire en ce moment. C'est vraiment commencer par le code. On va déclarer, enfin, on va coder ces entités. J'aurais pu coder une classe instrument par exemple, ça aurait ensuite géré du code SQL pour générer ma base. Et mon modèle serait créé par convention et par attribut sur ce code-là. Je vais le faire un petit peu à l'ancienne. Moi, je vais partir d'une base existante, donc celle qu'on a créée il y a quelques minutes, et je vais générer mon modèle à partir de ça.
Tu as une base héritée qui date d'il y a 2 minutes.
Voilà, c'est une base historique. Vous comprenez que
Ouais.
je ne peux pas m'amuser comme ça à recréer un modèle. Je clique sur une nouvelle connexion. Je vais dans la data source ici par défaut, il croit que je vais utiliser un fichier. Moi, je ne veux pas utiliser un fichier, je veux utiliser SQL Server, le vrai, le gros. En fait, je vais utiliser Azure SQL Database. Et pour ça, il faut que j'aille chercher son petit nom du serveur que j'ai créé tout à l'heure. Et ça se passe dans le portail Azure à ce niveau-là. Si vous cliquez sur, donc là, je suis toujours sur le Hanson Banjat DB. Je vais aller sur mon dashboard. Et vous avez le serveur name ici qui est disponible. Donc c'est son adresse publique entre guillemets, accessible sur le DNS public plutôt. Vu que j'ai créé tout à l'heure la règle dans le firewall, je vais pouvoir y accéder. On utilise une authentification SQL Server et pas une authentification Windows. C'est le login mot de passe que j'ai créé tout à l'heure. C'est toujours le même. Je le sauvegarde, on ne sait jamais, je ne sais pas où il en aura besoin après. Ensuite, il me propose de sélectionner une base de données. Ça me permet de vérifier qu'il s'est bien connecté au serveur, donc tout fonctionne. Je sélectionne la seule base de données, c'est celle-ci. La deuxième, c'est la base master, hein, classique. Je peux tester, mais normalement, vu que j'ai accédé à la liste des bases de données, ça fonctionne. OK. Et l'étape d'après, c'est de lui dire que je me moque de la sécurité. C'est pas de manière générale, hein, mais c'est pour aujourd'hui. En théorie, il faudrait mettre le bout de code qui va bien pour récupérer le mot de passe de manière plus sécurisée. Là, il sera en clair dans le web.config, que je pourrais vous montrer puisque j'ai fait exprès de prendre un mot de passe temporaire. Je continue. Il va me demander ici quelles entités je veux récupérer. Bon, l'avantage, c'est que j'en ai qu'une. J'ai qu'une table, donc ça sera qu'une entité, c'est les instruments. Vous avez après d'autres options. Je vais essayer de le faire pluraliser ou singulariser les entités. Par exemple, l'instrument au pluriel. Si ça fonctionne bien, mais ça marche plutôt mieux en anglais qu'en français, il va me mettre l'entité instrument au singulier et les listes, eux, il va me les mettre avec un S.
Quand on met personne, par exemple, il met people. Ça,
Alors,
c'est rigolo.
effectivement, personne en anglais, hein, donc avec un N à la fin. Au pluriel, il va le remplacer par people. Donc ça marche plutôt bien en anglais, en français, les exceptions doivent être moins bien gérées. Et en théorie, par contre, mettre des S et les enlever, il sait plutôt bien faire. Ça prend un petit peu de temps, il va me récupérer deux, trois éléments. Il va me créer un certain nombre de templates T4 pour ceux qui sont intéressés, qui vont générer du code, c'est la métaprogrammation. Ça va me permettre de générer tout le code anti-framework nécessaire, la génération du DB contexte, la génération des classes de mes entités, etc. Ok, il continue d'avancer. Voilà, donc vous avez vu, instrument au singulier, il a réussi, victoire. Il m'a rajouté toutes les références qui vont bien. Je vais pouvoir quitter ça. Je vais ensuite, voilà, c'est tout ce qu'il m'a généré ici, les TT, c'est pour T4, et le code qui a été généré. Donc il n'y a pas grand-chose non plus, hein, mais que le modèle assez.
Text template. Je sais pas pourquoi 4 VRT4 il y a.
Je sais pas, tes deux étaient déjà pris, non?
Ah non, c'est le text template.
Okay. Transformation,
Ah oui, c'est ça, ouais.
Mais tiens, ça y est dans l'IM.
Si quelqu'un sait à quoi veut dire T4, n'hésitez pas à le mettre dans l'IM, effectivement. Donc je vais ajouter sur mon projet donc frontal, hein, mon code applicatif, je vais ajouter une référence vers ma couche d'accès aux données.
Kit.
Tout le kit.
Texte template transformation tout
Text template transformation tout
Maintenant, je vais quelque chose que j'oublie à chaque fois de faire. Je suis content de ne pas l'avoir oublié. Je vais rebuilder. Je suis un petit peu parano. J'ai cleané avant, mais normalement, ça sert à rien.
Félicitations.
Ça fonctionne. J'ai pas écrit une ligne de code en même temps. Mais bon, j'ai fait 3-4 clics. Ça fonctionne. Et grâce à ça, donc maintenant, je vais ajouter la gestion des instruments dans mon application. Pour faire ça, donc en MVC, hein, MVC, vous savez que c'est Model View Controller. Mon modèle, bah, je l'ai créé, c'est ma DALL, c'est mon projet DALL. Le contrôleur, c'est lui qui va récupérer des requêtes HTTP et qui va prendre le modèle qui correspond pour le donner à manger à une vue qui va générer le code HTML correspondant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un contrôleur qui va être capable de gérer un certain nombre d'opérations pour gérer mes instruments. Donc je vais faire un clic droit sur contrôleur, add contrôleur, et je vais lui dire de me générer un maximum de code. En l'occurrence, là, je vais lui dire d'utiliser un template de contrôleur, qui est un template MVC 5, qui va me générer des vues également, et qui sait parler Entity Framework. C'est top parce que c'est exactement ce que je veux faire. Là, je vais pouvoir lui indiquer quel modèle je souhaite utiliser, quelle classe je souhaite utiliser pour mon modèle. Donc, mon modèle, c'est vraiment mes objets, hein, mes données. Et il a récupéré dans mes références, il a vu que j'avais une classe qui s'appelait instrument dans le namespace DAL qui pouvait certainement correspondre. Donc, c'est ça que je vais choisir. Je vais lui dire, je vais lui indiquer quelle est la classe qui gère mon contexte. Donc, c'est tout à l'heure quand j'ai créé à partir de ma base de données mon modèle, ça m'a créé les différentes classes pour mes différentes entités et une classe pour le contexte qui va maintenir ces entités, qui va gérer gérer les connexions, etc. Donc, il y en a qu'un, donc ça tombe bien, je le sélectionne. Et la dernière chose que je vais utiliser, c'est d'utiliser des contrôleurs asynchrones. On va voir pourquoi juste après. Je vais laisser tout le reste. Je génère des vues, je vais référencer les librairies clientes qui vont bien, et je vais utiliser la page de layout classique. Tout ça, bien sûr, est customisable. Très bien. Et j'ai oublié de faire quelque chose d'important. J'ai pas spécifié la chaîne de connexion à ma base de données dans mon projet Enzone Benjat. En fait, cette chaîne de connexion, elle a été créée dans mon app.config de ma couche d'accès aux données. Elle est ici. Mais je ne l'ai pas mis dans mon projet client, donc dans le web.config de mon projet client. C'est ce que je vais faire maintenant. Est-ce que j'en ai... Ah non, il faut... Je suis un petit peu paresseux. Je vais tout copier. Configuration, je vais mettre ça à la fin. Et maintenant que j'ai une chaîne de connexion, je suis parano, je rebuild, mais normalement c'est pas la peine. Je vais reprendre un nouveau contrôleur. Add contrôleur, MVC5, ajouter. Je reprends instrument. Je reprends mon contexte. J'utilise les actions asynchrones. Je croise les doigts. Et donc là, il est en train d'interroger mon modèle pour savoir ce qu'il a à générer. Ça va assez vite, en même temps c'est pas très compliqué non plus. Il m'a créé les différentes actions dans mon contrôleur pour faire les différentes opérations possibles. Par exemple, un get sur instrument en pluriel va me récupérer la liste de mes instruments. Un get sur instrument avec les détails et un identifiant va m'indiquer les détails d'un instrument donné, etc., etc. Je peux créer, je peux éditer et compagnie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va utiliser des contrôleurs qui sont asynchrones. Non, des actions, excusez-moi, des actions asynchrones. Et ça, c'est particulièrement puissant grâce à la nouvelle version d'Entity Framework. Pourquoi? Parce qu'elle a des méthodes d'accès aux données qui sont elles-mêmes asynchrones. Donc finalement, vous aurez l'ensemble de la chaîne qui sera asynchrone. Donc dès que possible, le thread va être libéré, donc le thread qui va gérer votre requête HTTP va être libéré le temps que les actions qui sont un peu plus lourdes, un petit peu plus longues que simplement construire l'HTML s'exécute. Donc le temps d'aller récupérer les bonnes données dans la base de données, etc. Il va faire ça sur un thread séparé pour pouvoir dégager de la ressource à IIS pour traiter d'autres requêtes en parallèle. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vérifie sur ma petite feuille si j'ai rien oublié, mais normalement non. Je vais publier. Si vous voulez, si vous ne faites pas le lab en parallèle, je vous encourage à croiser les doigts. Toujours ça de prix. Ok, donc ça, vous avez vu, ça allait super vite. Il a changé que ce qu'il avait modifié. Donc il a ajouté dal.dll par exemple et les quelques contrôleurs. J'ai rien créé dans le menu, donc il faut que j'aille taper ça ici dans instruments au pluriel. Ça fonctionne, j'ai bien ma liste d'instruments qui est arrivée. Donc toutes les vues là ont été créées pour moi. Je peux aller modifier un nom, sauvegarder, supprimer. Tout fonctionne. En plus, l'avantage de ce template, c'est qu'il utilise Bootstrap, donc qui est une librairie CSS, si on peut utiliser le terme librairie pour du CSS, et qui me permet simplement de rendre des choses jolies, sans avoir grand chose à faire. Et là, c'est ce qu'il a utilisé, donc ça me permet d'avoir ces jolis tableaux sans avoir fait grand-chose. Super, ça marche bien. Merci pour la confirmation. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller un petit peu plus loin. Je suis allé plus vite que prévu, mais c'est pas grave, on a deux, trois choses à faire supplémentaires. La première, c'est, alors imaginons qu'on ait un succès fulgurant, un succès fou avec ce site qui va gérer les instruments, et que la base de données que j'ai choisie, qui est en basique, ne suffise plus. Parce que la base de données basique, elle coûte pas cher du tout, mais elle est limitée en performance. Certains diront très limitée. C'est effectivement pour des sites en production, ça va vite être insuffisant. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est changer le tiers, donc le niveau de performance finalement de cette base de données. Donc ça, j'ai plusieurs façons de le faire. La première façon, c'est de retourner dans mon portail Azure et d'aller utiliser le petit bouton Scale qui va me permettre de passer de basique à standard. Une fois que je suis à standard, je vais pouvoir choisir si je veux être dans du standard S1 ou du standard S2. Donc vous avez ces éléments ici, les DTU, qui vous indiquent c'est une unité qui va mesurer les performances. Le but du jeu, c'est pas d'avoir des performances absolues, mais de pouvoir différencier les niveaux de performance d'un tiers relativement à un autre tiers. Si je prends le S2, il a 50 DTU. Si je le compare à basique, ben voilà, on sait qu'il est 10 fois plus performant qu'un basique. Si je prends un premium, P3, là je suis à 800 DTU. Donc là on a le temps de faire passer quelques requêtes sur un P3. Moi, vu que c'est derrière un compte MSDN qui est utilisé, je suis à peu près dans le même cas que vous. C'est-à-dire qu'une fois qu'à la fin du mois, j'ai dépensé mes 150 euros, j'ai plus rien. Je vais plutôt choisir un S1. Et d'ailleurs, je vais même pas le faire ici. Là, je pourrais sauvegarder et la conversion aurait pu se faire par ici. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on voit comment on le fait par code directement. Et pour ça, je vais retourner dans le portail, le fameux portail Silverlight, qui me permet de gérer ma base de données. Je vais fermer la session. Pourquoi je ferme la session? Parce que c'est sur la base master que j'ai envie de me connecter cette fois et pas sur ma base que j'ai utilisée pour ma table instrument. Donc je vais indiquer master. J'indique le même login mot de passe parce que c'est le login mot de passe du serveur. Je me connecte. Et je vais pouvoir créer une nouvelle requête. Cette nouvelle requête, je vous l'ai mis également dans le OneDrive. Ici, elle s'appelle database edition.sql. Et vraiment très simple. C'est juste un alter database qui va modifier la propriété édition. Je la copie-colle, je l'exécute. Très bien. Il faut peut-être que je change le nom de ma base de données. Alors, quel est son nom? Voilà, je copier-coller. J'exécute. Et cette fois, est-ce que ça sera vert? C'est vert. Commande terminée. Ça a fonctionné. En fait, ça a fonctionné. La requête, enfin la demande de modification du tiers a fonctionné. Mais elle prend quelques minutes et je pense que cette fois c'est vraiment quelques minutes de passer d'un basique à un standard. Elle est ici, c'est celle du haut. Je vais faire un refresh, je vais faire un F5 parce que le portail s'actualise pas toutes les secondes. Et on va pouvoir avoir une petite indication visuelle comme quoi ma base de données est en train d'être convertie de basique à standard. Je crois qu'il aura chargé. Voilà, vous voyez ici, basique tout standard, il est en pleine conversion. Donc pendant cette conversion, mon site est toujours accessible, hein, si vous continuez d'y aller. C'est vraiment une conversion qui va se faire à chaud. Il y a éventuellement un petit temps à la fin de la conversion où la base ne sera pas accessible. Mais c'est quelque chose que vous pouvez gérer dans votre application. En fait, de manière générale, c'est même une bonne pratique qu'il faut utiliser quand on va se connecter à une ressource distante, puisque finalement la base de données est sur un serveur distant par rapport au code qui fait tourner votre application qui est dans Azure Website. Et une des bonnes pratiques, c'est d'avoir un mécanisme de retry pattern mis en place entre votre code applicatif et une ressource distante, en l'occurrence ici ma base de données. Donc ce mécanisme de retry pattern, l'avantage, c'est que Entity Framework va le gérer pour vous. Et d'ailleurs, pourquoi retry pattern? Parce que c'est vraiment un pattern qui va consister, si ça rate, on recommence. Ça peut paraître bête et méchant, mais c'est encore ce qu'on a trouvé de mieux. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est dans des architectures où une erreur peut arriver pendant quelques millisecondes et disparaître à peu près aussi vite qu'elle est arrivée. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'il y a un problème sur le serveur qui héberge votre base de données SQL Database. L'avantage du service, c'est que votre base de données, votre base de données, pardon, elle est répliquée 3 fois. Et à chaud, il va pouvoir reprendre sur un autre serveur votre base de données. Mais il va faire ça, ça va lui nécessiter quelques millisecondes, quelques dizaines ou quelques centaines de millisecondes. Je n'ai pas le temps exact, mais globalement, s'il y a une requête qui est faite sur votre base de données pendant ce temps-là, bah, la requête va échouer. Par contre, si 200 millisecondes après, vous recommencez, elle va très bien s'exécuter. Si vous avez une coupure réseau, une micro-coupure réseau qui apparaît, bah, potentiellement, vous allez avoir ce même genre d'erreur qu'on appelle erreur transiente. Donc, c'est une erreur, la définition de transiente, c'est qui disparaît aussi vite qu'elle est apparue. C'est un peu comme l'erreur de Stéphane tout à l'heure dans son code. On n'a pas compris d'ailleurs pourquoi elle est apparue. Donc on va devoir gérer ce genre de cas-là dans des architectures qui respectent les bonnes pratiques, on va dire. Et pour ça, comme je vous le disais, Entity Framework va beaucoup nous aider parce qu'il, par simple configuration, en fait, il va vous permettre d'activer le retry pattern. Et pour ça, je vais ajouter un fichier de configuration que je vais récupérer ici dans le OneDrive. C'est le fichier qui s'appelle mydbconfiguration.cs. Je vais aller l'ajouter dans mon projet DAL. Ajouter nouvel élément. Code, j'ajoute une classe. Je vais l'appeler mydbconfiguration. Ajouter. Je vais lui changer, d'abord je vais lui copier les références. Non, c'est chef. Je vais enlever mes gants. Voilà. Je vais copier tout ça, comme principe.
Les commentaires et tout.
Voilà, c'est propre comme ça. En fait, c'est pas propre du tout. Qu'est-ce que j'ai fait?
T'as oublié la classe? T'as mis que le namespace, j'ai l'impression.
Bah oui, c'est n'importe quoi.
Comment c'est la classe?
Bah oui. Voilà. Donc concrètement, c'est je vais pas tout détailler, mais cette execution stratégie va indiquer Entity Framework d'utiliser une stratégie d'exécution qui s'appelle SQL Azure Execution Strategy, SQL Azure qui est l'ancien nom de Azure SQL Database, et qui consiste à dire s'il y a une erreur, recommence. S'il y a encore une erreur, bah, recommence, mais attends un petit peu. S'il y a encore l'erreur, tu attends un petit peu plus, tu recommences, etc., etc. Le but du jeu, c'est pas de réessayer tout de suite et de réessayer 1000 fois en 10 millisecondes.
Ça marche pas.
Parce que vous avez vraiment surchargé votre base de données à coup d'essai. Mais c'est plutôt d'avoir une politique qu'on avait appelée une politique de back-off. C'est de réessayer vite. Si ça marche toujours pas, on attend un petit peu, on réessaye. Si ça marche toujours pas, on attend encore un peu plus, on réessaye, etc. Donc ça, vous n'allez pas à le coder en utilisant Entity Framework, c'est codé pour vous. Vous avez juste à rajouter cette petite ligne de configuration. Et normalement, si je publie, je teste même pas en local tellement je suis confiant. Peut-être qu'on morde les doigts. Il y a potentiellement une chose qu'il faudrait rajouter, mais j'ai un doute. Allez. Voilà, c'est bon, ça a fonctionné. Concrètement, il n'y a rien de plus que tout à l'heure hein, à l'écran. Par contre, Si jamais il y a un problème que la base de données est en train d'être convertie de basique à standard et qu'il y a une requête qui se passe pile au moment où elle est inaccessible, là, il sera capable de reprendre, de réessayer, et potentiellement l'utilisateur n'y verra que du feu. Donc vous avez une ligne de code et vous avez résolu ce problème de besoin de mécanisme de retry pattern. Dernière chose avant de faire une petite démo à ASP.NET VNext, je vais faire quelque chose qu'on ne fait pas assez. Quand on utilise des packages NuGet par défaut, ces packages NuGet sont stockés. Alors je vais peut-être aller ouvrir. Sont stockés ici dans un répertoire qui s'appelle package, à la racine de votre solution Visual Studio. Et ensuite, chacun de vos projets Visual Studio va avoir un petit package.config, que je peux rouvrir ici, qui va indiquer tous les packages Nuget que vous installez. Par défaut, si vous travaillez en équipe, quand vous allez partager votre code source, tout ça va être checké entre guillemets sur le contrôle de source. Et rapidement, il peut y avoir des problèmes de dépendance que vous allez avoir sur d'anciens packages Nuget, quelqu'un qui va faire une modification mais qui va charger un mauvais package qui ne sera plus compatible sur votre version, etc. Bref, ça peut rapidement devenir compliqué. Ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va éviter de checker ces packages Nuget. Donc on va éviter de checker tout ce répertoire package pour pouvoir laisser au serveur de build ou à la machine locale le soin de récupérer les packages au moment où il en a besoin. Parce que finalement, tous ces packages, ils sont disponibles sur Internet, sur Nuget en l'occurrence. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à la solution d'activer le Nuget Package Restore. Et donc automatiquement, les packages vont être sortis de la solution. Et on va dire à Visual Studio ou alors au moteur de build de les récupérer en temps voulu. Donc là, si je retourne, alors, effectivement, il y a un cache. Si je pourrais les supprimer, je le fais, je n'ai pas prévu de le faire. On va voir. On va d'abord éteindre Visual Studio. Voilà. Et là, normalement, si j'ouvre Visual Studio, je rouvre ma solution. Je clean parce que je suis toujours aussi parano. Je rebuild. Voilà, je crois que je le voyais. Voilà. On le voit dans la fenêtre de build ici, il allait me récupérer tous mes packages, qui m'a remis dans mon dossier package automatiquement, mais qui ne sont plus sur le contrôle de source, si jamais vous étiez sous contrôle de source. Donc ça, si vous étiez sur, enfin si vous utilisez un serveur de build, bah, de la même façon, le serveur de build, lui, vous lui aurez pas livré tous ces packages-là, mais par contre, comme vous lui livrez la liste des packages que vous utilisez, il aurait tout récupéré. Donc pour ceux qui font du Node, hein, c'est la même manière qu'un NPM restore, c'est le même principe. Donc si vous utilisez un contrôle de source ou travaillez en équipe, n'hésitez pas à faire ça, ça peut pas sauver des vies, mais vous gagnez du temps.
Allez, un peu d'ASP.NET VNext.
8 minutes. Ce que j'ai fait tout à l'heure, pendant que Benjamin et Stéphane vous présentaient ce qu'ils avaient à leur présenter, c'est que j'ai créé moi-même une nouvelle machine virtuelle. Et cette machine virtuelle, j'ai installé Visual Studio 14, comment elle s'appelle? CTP2, pour Community Technology Preview 2, donc qui est sorti il y a deux nuits de cela. Et je l'ai mis sur une machine virtuelle, pourquoi? Pour deux raisons, pour pas abîmer ma machine, et la deuxième raison, c'est pour pas abîmer ma machine. J'insiste là-dessus, parce que c'est totalement déconseillé de l'installer sur votre machine de prod. C'est une CTP, elle n'a vraiment pas été faite pour ça. J'ai ouvert un projet, mais ce n'est pas ce que je voulais faire. Donc, je vais attendre qu'il s'ouvre, mais je vais le refermer. Remarquez. D'ailleurs, par défaut, le nom des menus n'est plus en capitale, la première chose. Un changement qui avait fait beaucoup parler de lui. J'en profite pour un petit raccourci clavier. Si on n'a pas envie d'afficher les tuiles, si on n'aime pas les tuiles, je vois des fois des personnes qui disent Windows 8 c'est nul, j'aime pas les tuiles. Bah, ne les ouvrez pas. Vous faites un Windows Q et vous tapez ce que vous avez envie d'ouvrir. Si vous n'aimez pas les tuiles, ne les utilisez pas.
Windows XP.
Oh ouais, mais je l'aime moins, Windows XP.
Windows Z.
Il y en a plein.
Windows P.
Je vais créer un nouveau projet. Et cette fois, vous allez remarquer que tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport au fait qu'on a essayé de faire qu'une seule fenêtre, OneASP.NET, etc., ça n'existe plus. En fait, si, ça va exister, mais pas pour l'instant. Donc là, vous avez un certain nombre de projets qui existent. C'est vraiment de l'alpha, hein, ce qu'on est en train de faire. Tout ça est développé en open source, c'est sur GitHub. C'est vraiment très tôt dans le process, mais l'avantage, c'est qu'on vous donne cette visibilité très tôt. Ce que je vais faire, c'est une nouvelle web app. Je choisis ASP.NET VNext Web Application. Et je vais vous montrer deux, trois petites particularités sans rentrer trop dans les détails. Ce sera l'occasion certainement d'un nouvel événement prochainement. On va essayer d'organiser ça après les vacances. La première chose qu'on peut remarquer, c'est on n'a pas de web.config, à la place on a un config. Pardon, c'est pas celui-là. On a un config.json. On peut tout à fait avoir un web.config, en fait avoir un fichier de configuration en XML, mais par défaut, maintenant le fichier de configuration va être en JSON. De la même façon que ce fichier ici qui s'appelle project.json, qui va ressembler énormément pour ceux qui connaissent Node, au fichier de configuration Node. Vous allez indiquer ici vos dépendances. Vous allez indiquer un certain nombre de choses que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais qui vont vous permettre de charger les dépendances à la manière de package. Donc vraiment comme ce que je vous ai montré avec les packages NuGet tout à l'heure, mais également pour les fonctionnalités de base d'ASP.NET. C'est-à-dire que n'importe quelle fonctionnalité de base d'ASP.NET va être gérée comme package et plus comme une sorte de monolithe qui contient l'ensemble des fonctionnalités de .NET et sur lequel vous piochez. C'est-à-dire, avant, on chargeait tout et on prenait ce qu'on avait besoin. Maintenant, le principe, c'est de définir quel package on a besoin dans son application et on les chargera que si on les a demandés. Donc ça va avoir plein d'avantages. La première, c'est la réduction de la consommation de mémoire. Et donc finalement, vous allez pouvoir faire travailler beaucoup plus vos serveurs web qui vont gérer beaucoup plus de requêtes, rien que grâce à ça. Si je veux, par exemple, qu'est-ce que je peux vous montrer? Oui, alors ces dépendances ici sont des dépendances qui vont se retrouver dans les références. Et une des choses qu'on remarque, c'est que ces références sont maintenant affichées dans un arbre, finalement. Et vous allez pouvoir voir les références, les dépendances et leurs sous-dépendances. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'était toujours un petit peu compliqué à voir pourquoi tel DLL était chargé et ne l'était pas autrement. Donc c'est une nouveauté qui est assez appréciable. Et si jamais je vais supprimer, par exemple, je vais supprimer le web listener que je ne vais pas utiliser dans la démo. Je vais sauvegarder. Ce que vous pouvez voir, c'est à l'endroit où c'est affiché Ready, ici, en bas à gauche, vous allez voir un Restore, Package Restore in Progress. C'est vraiment à la mode Node. Dès que je modifie les dépendances que j'ai besoin, je vais faire un Restore sur mon projet et il va automatiquement aller modifier mes références pour ne charger que ce que j'ai besoin. Donc si j'exécute, voilà, ça commence à être la fin de journée. Tout va bien se passer. Il va me charger mon IIS Express. Il va me charger mon site. Première exécution est toujours un petit peu longue. Particulièrement longue cette fois. Voilà, ça fonctionne. Rien de très neuf à ce niveau-là, au niveau du template en tout cas. Par contre, pas mal de choses qui ont changé par rapport à la façon dont tout ça a été fait. Par exemple, quand vous êtes sur un ASP.NET classique, enfin, aujourd'hui, vous allez d'abord commencer par construire des DLL sur le disque, donc sur votre disque dur, avant de charger ces DLL en mémoire, et votre application après sera chargée en mémoire. Là, une des nouveautés de ASP.NET VNext et de la prochaine version du Visual Studio, c'est d'utiliser le compilateur Roslyn, qui va être capable de compiler directement en mémoire sans passer par une étape disque. Une des bonnes pratiques aujourd'hui quand on fait du développement, c'est d'avoir des machines plutôt puissantes, notamment en termes de disque dur. Un développeur .NET qui n'a pas aujourd'hui, c'est ben voilà, il perd un peu de temps à cause de ça, surtout s'il travaille sur des très gros projets. Demain, avec ça, le but du jeu sera d'avoir de la mémoire. Simplement, le disque va être beaucoup moins utilisé pour ces étapes de compilation. Derrière, quelque chose d'autre que je peux vous montrer, c'est le fait qu'il va y avoir deux versions du .NET Framework côté serveur. Il va y avoir la version complète, si je puis dire, qui va être très proche de celle qu'on connaît aujourd'hui, qui va inclure tout l'historique. Je pense notamment aux webforms. Et il va y avoir une nouvelle version que je vais pouvoir choisir ici. Alors, évidemment, ma souris Bluetooth qui se déconnecte, ça arrive une fois toutes les heures et c'est maintenant. Je vais choisir le framework ici qui s'appelle le framework Cœur. Ne faites pas attention au nom ici 4.5.1, ça sera certainement pas le cas dans la release finale. J'applique, j'utilise ce framework Cœur et ce framework Cœur, il a vraiment le minimum pour faire tourner ASP.NET et en l'occurrence pour faire tourner tout ce qui est autour de la stack MVC. Donc quand je dis MVC, c'est MVC, mais c'est aussi WebAPI, Single Page, Signaler, bien sûr, et après bah, tout ce qu'il faut au niveau de la BCL et tout ce qu'il faut autour de .NET. Mais vous n'allez pas, par exemple, charger les webforms, vous n'allez pas charger les system.drawing, vous n'allez pas charger toutes ces choses-là qui font pas partie du cœur d'ASP.NET. L'avantage, c'est quand je vais faire ça, je vais refaire tourner mon application. Ça va être encore une fois la philosophie que j'ai présentée tout à l'heure en chargeant seulement les modules dont j'ai besoin. Ben là, ça va permettre d'aller encore plus loin puisque vraiment le cœur de .NET en lui-même va être beaucoup moins lourd et on va aller encore plus loin dans l'amélioration des performances. Dernière chose que je peux préciser avant de rendre la main, c'est que on a la possibilité, enfin, on l'a déjà dans cette version bêta, alpha plutôt, la possibilité de faire tourner ASP.NET sur Windows, sur IIS, mais pas que. On pourra faire tourner sur IIS dans un nouveau mode dont on n'a pas encore de nom, mais qui permettra de ne pas charger le pipeline managé qu'on connaît aujourd'hui. On aura la possibilité de faire tourner ASP.NET sur Linux, sur Mac. Pourquoi? Parce qu'on a des couches vraiment très modulaires et on pourra s'appuyer sur Mono de façon supportée par Microsoft et testée par Microsoft. Bref, c'est vraiment un nouveau ASP.NET que l'équipe produit est en train de nous faire et ça promet pas mal de choses d'assez sympathiques. On aura l'occasion d'en reparler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, bah, moi, je te passe la main pour une petite conclusion. Je ne sais pas comment tu veux gérer ça.
Je vais me montrer comment est-ce que on supprime les VM sur celle de mon environnement, par exemple. Bon, déjà, si vous avez des questions, oui, n'hésitez pas sur l'IM, le messagerie instantanée. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'est une façon de supprimer les VM que vous avez pu créer pendant le Hands-on Lab éventuellement ou quand vous aurez fini le Hands-on Lab. Enfin, les Hands-on Lab, en fait, si vous avez créé des VM intermédiaires, etc., vous avez la possibilité de les supprimer via le Cloud Service ici. Donc, par exemple, la VM de travail sur laquelle j'avais créé, par exemple, mon environnement PowerShell et Putty. Dans ce cas, je vais faire Delete et je supprime le cloud service et ses déploiements, puisque c'est là où j'ai aussi les machines virtuelles. Donc il me prévient en me disant quelles sont les VM que je vais supprimer. Et puis je vais faire la même chose sur toutes mes machines Nginx et Varnish que j'avais ici. Donc Delete tous les cloud services et leurs déploiements. Voilà, et puis une fois que ça sera fini, je pourrais aller supprimer également la partie storage, les comptes de stockage, mais enfin même si a priori il sera vide. Sur website, je peux supprimer aussi ça ici, ou je peux le mettre en gratuit aussi, je peux supprimer ma base MySQL. Une autre façon pour que ça ne coûte pas, c'est juste de le mettre en gratuit en fait. Donc si je ne fais pas ça et que je vais juste là, je vais dans Scale et je mets en gratuit, du coup le voilà, save. Donc là, ça coûte plus rien. Bon, en l'occurrence, comme j'en ai pas besoin, je vais le supprimer complètement, mais c'est une façon de faire aussi. Donc website, hop, et delete, hop. Voilà. Et donc j'ai mes machines virtuelles qui vont disparaître au fur et à mesure. Je sais pas si je rafraîchis ce que je vois. Voilà, donc là j'ai plus de machine virtuelle. Dans le cloud service, j'ai plus les deux cloud services que j'avais. J'ai plus de website, donc je peux aller dans storage. Je peux aller supprimer mon compte portal. Alors pourquoi est-ce que je peux plus? Peut-être qu'il n'a pas encore rafraîchi. Il faut que je rafraîchisse peut-être parce qu'il croit que j'ai des images de machine virtuelle ou des disques de machine virtuelle. Donc il peut y avoir des dépendances. Détail. Alors il me dit qu'il y a des conteneurs encore, effectivement, il y a le conteneur VHD, mais le VHD normalement il a été supprimé. Je sais pas pourquoi j'ai encore ce disque, normalement il aurait dû le supprimer. Il n'a peut-être pas fini, je sais pas. Bizarre. Donc je réessaierai dans quelques temps. Enfin, normalement, on doit pouvoir finir par supprimer ce compte de stockage et également supprimer celui-ci.
Et tu les vois encore dans les disques ou pas?
Faudrait que je regarde. Ouais, mais je vais...
Y a un disque, il peut avoir un lit sur le blog encore.
Ouais, mais normalement non, puisque c'est celui que j'ai créé. C'est assez bizarre. Alors oui, en fait, si vous voulez voir la dépendance, en fait, c'est ici dans disque. Vous avez effectivement tous les disques Enzone Labs, etc. Donc il reste encore les disques là qui normalement auraient dû être supprimés. Donc là en l'occurrence c'est celui-ci. Il n'avait peut-être pas fini de le faire. Bon, je pense que quand on va un peu trop vite, effectivement ça fait ce genre de choses. Je suis sûr que si j'essaye dans 10 minutes, il n'y aura pas de problème, ça se supprime. Donc vous pouvez revenir à votre compte de stockage dans quelques temps et après le supprimer. Donc voilà. Donc je vous rappelle l'adresse de Laura, si vous voulez la contacter concernant la pépinière Microsoft Azure. Ça vous permet effectivement d'avoir du coaching technique et business. Et puis voilà, si vous avez des questions, je regarde dans l'IM encore pendant quelques secondes et puis ensuite. Je vous proposerai de terminer cette session. Bon, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu manipuler ou que vous pourrez manipuler en regardant le contenu du OneDrive et faire les exercices de votre côté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par Laura qui nous les transmettra. Et donc voilà. Bah écoutez, merci à tous et puis eh bien, à bientôt via la pépinière Azure par exemple ou à l'occasion de prochains Enzone Lab ou de etc. Merci bien, au revoir.
Bonne fin de journée.